19h01 sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure de Radio Camping Paris.
Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus au Radio Camping Paris. Ah, qu'il était bon ce week-end de prolonger un avant-goût des vacances d'été. Ne rien faire. Laisser son cerveau en jachère le temps d'une glace au chocolat et d'un feu d'artifice. Le problème avec ces week-ends de détente et avec les vacances d'ailleurs, c'est qu'on ne sait jamais s'il faut ou non tout déconnecter. Faut-il ou ne faut-il pas débrancher son téléphone, se détacher des mails, des notifications push du monde et de papy et mamie? Faut-il abandonner le temps d'un voyage, ses conquêtes Tinder, Grindr ou même Trinder? Comment alors vaincre l'angoisse du retour de vacances où l'on se rend compte qu'on a tout raté? On allume la radio et hop, capitulation de la Grèce, la télé et hop, interview de François Hollande, le téléphone et la mort de Marc Sharif et de papy aussi, pauvre mamie. Et c'est sans compter les pique-niques improvisés auxquels personne n'a songé à nous inviter. Et oui, débrancher, se déconnecter, ce n'est pas toujours aisé. Comme si on avait peur qu'en ratant quelque chose, on cesse d'exister, comme si être toujours connecté nous permettait de vivre. Comme si avoir un téléphone greffé au bout du bras faisait de nous des surhumains post-humains, des êtres ancrés dans leur temps et surtout dans les réseaux, sociaux les réseaux. Et pourtant, ça fait tellement du bien de se prélasser au soleil et d'ouvrir un livre plutôt que son Snapchat. Allez, je vous propose quelque chose pour ce soir. Débranchez-vous, débranchez tout. Sauf votre radio, bien sûr, parce que ce soir, au Camping Paris, on vous invite à être là, à être dans la place, si on a encore le droit d'utiliser cette expression en 2015. Je suis pas tout à fait sûre. Et surtout, à ne pas avoir peur de vous égarer le temps d'une émission. On va rattraper l'actualité manquée du week-end avec Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Ouais, dans la place.
Dans la place. Flâner devant la télé avec Flore qui va pas tarder à arriver et surtout se détendre en musique avec nos invités de ce soir, Louis-Pierre Lacouture, musicien et organisateur de la soirée Anti-Café Soirée Électronique numéro 3 ou Live Soirée Électronique, après je peux dire ce que je veux apparemment, on peut l'appeler comme on veut. Filippo Pedrazzoli, coordinateur artistique des Anti-Cafés Parisiens, et Axel Régaud, musicien.
Radio Camping Paris.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Ça va, j'ai écorché un peu les noms, la soirée, le nom de la soirée, tout ça, mais je suis un peu désolée. Hein.
C'était parfait.
C'est pas facile, hein, vous avez tous des noms un peu compliqués. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Louis-Pierre Lacouture, est-ce que je peux te tutoyer d'abord? Ouais, j'ai le droit. Génial, j'ai de la chance. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette soirée électronique à l'Anti-Café? Et surtout, c'est la troisième du nom, hein, donc j'imagine qu'il y en a eu deux avant, si je ne me trompe pas.
Et voilà, t'as bien deviné. Voilà. C'est donc la troisième soirée qu'on fait à l'Anti-Café le 30 juillet à 19h30 avec trois artistes. Donc moi-même, Enzyme, c'est mon nom de scène.
Sans E, Enzyme.
Enzyme sans E, s'il vous plaît.
C'est important.
Axel, alias Le Tarsier, qui est en face de moi, et un artiste japonais qui s'appelle Hybrid Leisureland, qui sera pas là ce soir, mais qui sera là le 30. Et j'organise ça avec Filippo, qui est à côté de moi. Et donc c'est des soirées dédiées aux musiques électroniques, plutôt expérimental, ça va de la noise à l'ambiance en passant par des choses plus rythmées. C'est pas vraiment des musiques à danser, c'est plutôt à écouter. C'est l'Anti-Café qui se prête aussi particulièrement à ce type d'écoute, dans le sens où c'est un endroit où on ferme pas tard. Il y a du bon son, il y a des fauteuils et
on est bien posé comme ça.
Peut-être Filippo peut présenter l'Anti-Café plus complètement, c'est lui le plus légitime.
On va effectivement en parler, mais je voulais juste savoir, donc numéro 3, comment tu as commencé à construire ces soirées et ce qui est important, ce que tu n'as pas précisé, c'est que les musiciens jouent en live. On n'a pas fait un DJ set, on a des vrais lives de musiciens.
C'est des lives électroniques. J'ai commencé en janvier, un petit peu sur la proposition de Filippo, que j'ai rencontré à travers une autre personne qui s'est produite à l'Anti-Café, et on est assez vite tombé d'accord sur l'idée de défendre à l'Anti-Café les musiques électroniques voilà, comme je les ai décrites, hein, dans un sens assez large, plutôt expérimentale, mélodique ou ambiante que dansante.
D'accord, et donc l'idée c'est s'adresse à quel type de public, à tout le monde, à des gens qui sont déjà un peu experts et qui connaissent un petit peu ces musiques-là ou
En fait, ce qui est intéressant à l'Anticafé, c'est que c'est un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu de travail pour certaines personnes. Il y a le principe, brièvement, c'est qu'on ne paye pas chaque consommation, mais on paye à l'heure de présence. Donc ça peut être, voilà, c'est l'occasion pour pas mal de gens de donner leur rendez-vous, passer leur coup de téléphone, utiliser le wifi, etc. Et donc au début des soirées, les gens qui bossent ou qui donnent leur rendez-vous rencontrent les gens qui viennent pour la soirée. Mais en fait, l'Anticafé est plus connu comme un lieu, voilà, de journée sans alcool, avec du wifi et une ambiance feutrée, que comme un lieu de concert. Et finalement, c'est intéressant d'avoir ce public-là comme public pour nos soirées.
D'accord. Et Philippot, est-ce que les règles changent à l'Anticafé quand on a affaire à un concert ? Est-ce que du coup, parce que, donc, d'abord, tu peux nous réexpliquer peut-être globalement le principe de l'Anticafé, et puis nous dire donc comment ça se passe ensuite quand on a affaire à des soirées donc le soir avec un public un peu différent. Est-ce que du coup, on intègre de l'alcool à ces soirées ou pas ? Comment ça se passe ?
Alors malheureusement, on ne peut pas intégrer de l'alcool.
Vous n'avez pas de licence.
Exactement. Mais de toute façon, tout le reste reste pareil. En fait, l'idée, c'est qu'à l'Anticafé, on paye seulement les temps qu'on reste. On paye les temps, du coup, à l'intérieur du temps, on a tout est inclus. On a les bouffées, on a les boissons, on a les wifi, et surtout, les soirées de musique, de théâtre, on a les spectacles. On a les spectacles, on a les concerts qui sont inclus dans la tarif habituelle.
D'accord.
On ne fait pas payer en plus pour ces soirées, pas du tout. C'est exactement le même principe. En fait, l'idée, c'est que comme lieu, c'est un lieu hybride. En fait, c'est à moitié entre un café, un espace de coworking, des choses comme ça. Et l'idée, en fait, des soirées électroniques, l'idée de faire rencontrer, et en fait, c'est aussi ça l'hybridité, de faire rencontrer les gens qui viennent pour travailler avec les gens qui viennent pour les concerts.
Ça les énerve pas, les gens qui veulent travailler, d'avoir de la musique, ça les embête pas dans leur boulot ? Comment ça se passe ?
Alors, finalement, il faut dire que les soirs, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui reste pour travailler, mais normalement, s'il reste, il reste, il n'y a pas de soucis. En fait, la musique qu'on propose souvent, ce n'est pas quelque chose de vraiment, qui peut être vraiment gênant pour les gens qui restent. C'est quelque chose qui est souvent une surprise à découvrir. Du coup, ça vaut la peine, même pour les gens qui restent pour travailler, de rester.
D'accord. Louis, je crois que tu voulais intervenir sur cette question.
Par exemple, la deuxième soirée, on avait deux artistes qui s'appellent Ogo et Mokuen, qui ont... voilà, c'est très pro, c'est une ambiance un petit peu accidentée, voilà, ça peut être presque de la musique de papier peint, selon le volume et l'attention que tu portes au concert. Ça peut vraiment être de la musique de papier peint, et au fur et à mesure de la soirée, c'est vrai qu'on a monté en intensité, et on a fini avec un autre japonais qui s'appelle Takami Nakamoto, qui lui a fait quelque chose de plus découpé, plus énergique et presque dansant. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ce double rapport que tu peux avoir à la musique. C'est une écoute vraiment passive de fond, ou au contraire rentrer dans le détail avec une écoute plus attentive. Et c'est un peu ça que j'essaie de défendre avec la programmation qu'on fait.
D'accord, et donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien à l'Anticafé. C'est la troisième, numéro 3. Il y a d'autres représentations comme ça, de soirées musicales, pas forcément électroniques. Comment est-ce que vous organisez ? Donc toi, tu es l'organisateur, en fait, des événements à l'intérieur de ces Anticafés.
C'est ça, avec Louis, on collabore juste pour les soirées électroniques. Et normalement, à l'Anticafé, on propose des soirées toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Ça va du concert qui peut être de jazz, de jam session, juste à des spectacles de théâtre. La semaine dernière, on avait un spectacle d'une très bonne actrice italienne, mais qui jouait en français. Après, cette semaine, on a un truc qui s'appelle Art Partagé, qui est une soirée pendant laquelle on aura des artistes qui viendront juste présenter leur projet, pour après pouvoir échanger avec d'autres artistes qui viendront à la salle, les publics, pour trouver des collaborateurs et vraiment tisser des liens entre les artistes et créer une, aussi une nouvelle façon de découvrir l'art.
D'accord, donc c'est cette volonté en fait de amener dans un lieu inhabituel des musiciens, des artistes, dans un endroit où en fait il y a des gens qui viennent juste pour travailler et qui ne sont pas forcément, ou peut-être même pas du tout, des artistes eux-mêmes.
Bah, alors ça c'est en fait réductif parce que seulement on a beaucoup des artistes qui viennent à l'Anticafé pour travailler.
Parce ils n'ont pas assez de place chez eux, c'est ça?
Pardon?
Ils n'ont pas assez de place chez eux, ils viennent à l'Anticafé.
C'est pas forcément ça, c'est que comme tout, souvent on travaille mieux dehors. De la maison. Et l'Anticafé, c'est l'endroit où aller quand on veut travailler, mais on n'a pas de bureau. Et à la maison, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Les espaces de coworking sont trop chers, des choses comme ça. L'Anticafé est l'endroit parfait. Il propose tout ce qu'il propose un peu en petit café sans t'obliger à continuer à consommer pour pouvoir rester. Et tout ça.
Donc on va revenir peut-être sur le concept et l'histoire des anticafés. C'est ouais. Peut-être intéressant aussi pour les auditeurs de voir un peu exactement à quoi ça ressemble. Donc l'idée c'est que c'est un café qu'on loue à l'heure, donc on paye à l'heure le café sans payer aucune consommation, c'est bien ça?
C'est ça.
Et avec un tarif qui peut aller au maximum à 14 euros si je me rappelle bien pour la journée.
C'est 16 euros.
Ah c'est 16 euros.
16 euros pour la journée, voilà. Il y a vraiment des gens qui arrivent à 9h le matin et qui partent à 22h le soir. Du coup...
Donc eux, ils rentabilisent bien, quoi.
Exactement. Mais il y a des gens qui sont bien capables de rentabiliser aussi dans une heure, évidemment.
Ouais, c'est ça. Ils boivent beaucoup de café, ils sont un peu énervés, mais ça se passe bien. Et donc, il y a plusieurs anticafés. Moi, je connaissais celui de Quincampoix. Toi, la soirée aura lieu à celui du Louvre. Et apparemment, il y en a un troisième, donc Olympiade. C'est bien ça?
C'est ça. Alors, en fait, les premiers ont ouvert en avril 2013. À Roquencampoix, c'était un expériment d'un jeune ukrainien qui s'appelle Leonid Goncharov qui a ouvert les premiers. Après, ça marchait très bien. On a pu ouvrir les deuxièmes en avril en mars de l'année dernière. Après, on a ouvert une troisième à Rome, en Italie.
D'accord.
Voilà. Et après, les quatrièmes ici à Paris, encore à Olympiade, à l'intérieur du campus cluster Paris Innovation.
D'accord.
Voilà. Et c'est vraiment les cafés du campus dans ces cas-là. Du coup, en ces moments, les campus est fermé pendant l'été, les cafés aussi est fermé. Mais celui-là, c'est vraiment un espace énorme. C'est comme 300 mètres carrés.
Ah oui, parce qu'effectivement, celui du Quincampoix, par exemple, il est quand même relativement petit.
C'est ça. Et celui du Louvre, encore un peu plus petit, mais plus adapté à accueillir des concerts, des soirées comme ça.
Et donc finalement l'Anticafé ça accueille des artistes, des étudiants, des gens qui veulent faire des réunions et des musiciens qui viennent jouer le soir pour faire de la musique papier peint comme le disait Louis, c'est un très joli concept.
Pas toujours, puis ça dépend de l'attention que tu lui portes aussi.
D'accord, est-ce que tu peux juste revenir sur ce concept de musique papier peint?
Et encore ça se distingue de la musique d'ascenseur.
Ouais c'est ça.
Je pense que ça se distingue de la musique d'ascenseur parce que tu peux y trouver une grande richesse si tu lui portes l'attention qu'elle mérite. Mais elle peut fonctionner sur un régime beaucoup plus papier peint. J'emploie ce mot, mais en fait un terme beaucoup plus commun, c'est la musique ambiante. Mm-hmm. Je pense qu'on est au moins deux ou trois ici à beaucoup apprécier Brian Eno, par exemple. En général, si tu penses à la musique de film, c'est souvent de cet ordre-là. La musique, elle est derrière, elle est au service d'une narration, elle est au service d'une image. Pour autant, il y a beaucoup de musiques de film qui ont une vraie qualité dans les textures, dans la composition, dans les paroles, pourquoi pas. Et je pense que tu peux, pour beaucoup de musiques, les faire fonctionner sur différents...
C'est quelque chose qui va imprimer une ambiance, c'est ça?
C'est ça, ça peut imprimer une ambiance, mais ça peut être aussi, ça peut prendre vraiment le devant de la scène si c'est écouté dans les bonnes conditions, sur un bon système, des bonnes machines, un espace adapté, comme on essaye de faire à l'Anticafé par exemple.
Et d'ailleurs, on va écouter un peu de cette musique papier peint, comme tu l'appelles, si bien. Peut-être que ça n'aura pas plaisir à Le Tarsier qui est à côté de moi. Peut-être qu'on ne t'aime pas, peut-être qu'on utilise ce terme musique papier peint pour ta musique.
Non, mais je trouve que Louis a très bien défini. Il a repris d'ailleurs un peu ce que dit Brian Eno, effectivement, sur la musique ambiante, à savoir que tu peux, tu peux avoir plusieurs degrés d'attention. Et ouais, c'est à l'auditeur de juger, je crois.
D'accord. Voilà. Mais là, je pense qu'ils vont être attentifs, les auditeurs.
Ouais, ils vont être attentifs, mais l'extrait de Le Tarsier qu'on a choisi, pour le coup, c'est pas le plus papier peint de la playlist de ce soir, mais ça va être bien.
Ça va les réveiller un petit peu. Bon, on écoute ça, Le Tarsier avec Émerge.
Thank you.
c'était Le Tarsier avec Emerge. Il est 19h22 et vous êtes toujours dans Radio Camping Paris.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Et pour une fois, on a la chance d'avoir le musicien dont on vient d'écouter la musique juste à côté de nous. Alors du coup, on va pouvoir te questionner un peu sur tout ça. Donc tu t'appelles Le Tarsier aussi, et aussi Axel Rigaud, c'est
oui,
ça
oui,
Axel
oui.
Rigaud. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Alors, ce qu'on n'a pas entendu l'auditeur en off, on se demandait, on se questionnait sur les instruments qui étaient utilisés. Tu nous as dit, mais non, c'est un simple synthé. Donc voilà. Tu travailles toi d'habitude avec des synthétiseurs?
Oui, voilà, je travaille beaucoup avec les synthétiseurs. J'adore les possibilités que ça permet, cet instrument, en fait. Bien que à l'origine je viens plutôt de la musique acoustique, parce que je suis saxophoniste de formation.
D'accord.
Et en fait voilà, je suis tombé il y a quelques années vraiment amoureux de cet instrument là et puis aussi des sampleurs, etc., qui offrent plein de possibilités. Et voilà, et donc c'est tout bêtement un synthétiseur qu'on entend tout au long du morceau. Voilà.
Et qui propose donc une musique papier peint ou ambiante.
Mais là, c'est plutôt, je dirais, musique répétitive, on pourrait dire, parce qu'il y a effectivement, il y a une pulsation quand même. Alors que dans les musiques ambiantes, souvent, il y a pas de batterie, il y a pas forcément de pulsation. C'est très très aérien, très suspendu. Et là, j'aime bien quand même quand il y a un drive, en fait, quand il y a quelque chose qui nous pousse, même si c'est pas à danser, tu vois, à garder. À être un petit peu hypnotisé en fait par ça, tu vois.
D'accord. Quel genre de public on a quand on propose ce type de musique? Où est-ce qu'on joue? Dans quel type de salle on joue?
Eh ben écoute, finalement c'est assez large, parce que en live je mélange les synthétiseurs et puis aussi les instruments acoustiques, que ce soit saxophone, flûte ou des petites percussions africaines. Et du coup, ça fédère pas mal de gens finalement. Après, j'ai fait des concerts dans des appartements, beaucoup. Et puis, quand on m'a proposé de jouer dans des contextes plus dansants, et ben j'ai joué aussi dans des clubs où là j'accélère le tempo et je fais des choses toujours très live. Il y a jamais d'ordinateur sur scène, c'est toujours
okay.
Pour justement être dans cet état de concentration qui fait que déjà je m'amuse plus que si j'appuyais simplement sur play.
Oui.
Et également j'ai pu constater que le public était très réceptif à ça et qu'il comprenait l'implication qu'il y avait derrière.
D'accord, et c'est quelque chose que vous défendez, hein, aussi bien Louis, donc Enzyme, que toi Le Tarsier, cette volonté de faire jouer des musiciens en live. On a l'impression quelque part que, enfin voilà, à force d'aller dans les clubs, d'aller même simplement dans des cafés, ce genre de choses, on voit quand même beaucoup de gens qui jouent juste avec un ordinateur, donc je sais même pas si on peut appeler ça vraiment jouer avec un ordinateur, mais et donc du coup c'est quoi, comment on s'inscrit dans une scène parisienne, comment on défend le live dans la musique électronique, je pense qu'il doit souffrir un peu aussi du manque un peu de live parfois.
Alors déjà, juste pour dire, on peut faire de la musique en live avec des ordinateurs sans aucun problème. Le seul chose, c'est quel degré de liberté on va s'accorder, en fait. Est-ce qu'on va venir avec des choses toutes prêtes et on n'a plus qu'à appuyer sur play, ou est-ce que justement on va se dire, bah là je me laisse telle marge de manœuvre et j'ai plus ou moins une idée de ce qui va se passer, mais il peut quand même se passer beaucoup de choses imprévues. Et en fait, je crois que les gens sont de plus en plus réceptifs à ça et qu'on n'a pas trop à militer. Les gens comprennent assez vite ce qu'on essaye de défendre, ouais. C'est-à-dire que voilà.
Je pense que si tu fais attention à un concert, tu comprends ce qui se passe et tu vois vite si comme tu dis, l'interprète il fait simplement play.
Il fait semblant de toucher à quelques boutons.
Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné des gens qui faisaient semblant.
Moi, je défends complètement aussi le live avec un ordinateur. Hein, c'est ce que je fais tout le temps. Mais bah, dans mon cas, par exemple, alors pour le coup, il y a beaucoup de choses enregistrées. Mais ce qui se passe, c'est que je suis pianiste à la base. Donc beaucoup de ma musique, elle est faite à partir de piano enregistré, d'orgue aussi. J'ai fait plusieurs concerts pour orgue d'église et machine en 2012 et 2013. Et voilà, j'enregistre des instruments, même d'autres, dont après je fais des petits bouts de samples que je manipule en live en même temps souvent que je joue du piano, de l'orgue, voire que je joue avec d'autres musiciens. Donc ce qui se passe, c'est que les sons enregistrés et éventuellement traités ou découpés se confrontent un peu brutalement, soit se confondent au contraire avec les sons qui sont joués live. Donc par exemple, ça, pour ces concerts d'orgue et électronique, c'était à l'église Saint-Eustache. Donc je faisais beaucoup de nappes d'orgue, mais en même temps je faisais évoluer des nappes qui étaient faites de petits bouts d'orgue enregistrés que j'avais pu enregistrer auparavant. Et à la fin, le live il venait de la rencontre. Et effectivement, il y a des choses enregistrées, mais je pense que si tu le prends comme tel et comme un matériau à utiliser, le live et le risque, ils existent.
Oui, donc il y a toujours ce mélange chez vous entre des choses qu'on enregistre et on ne peut pas faire venir un orgue à l'anticafé. Mais, et d'ailleurs, c'est important de l'enregistrer parce qu'on peut le traiter, ce qu'on ne pourrait pas faire effectivement si on le joue en live. Et donc le live, donc il y a toujours un mélange entre les deux. C'est bien ça, c'est comme ça que vous travaillez tous et tous les trois qui vont jouer donc le 30 à l'anticafé.
Moi, pour l'anticafé, ce sera plutôt des synthés. Il y a peut-être quelques sons d'orgue encore, mais j'ai travaillé avec des synthés analogiques. Voilà, pour un. Effectivement, c'est une configuration plus portable. Mais toi, Axel, je pense que c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de choses vraiment enregistrées. Hein. C'est très très fait en live.
Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, Axel?
Qu'est-ce que je vais vous jouer? Plein de belles choses. Je vais jouer avec mes saxophones, mes flûtes, mes samplers, mes synthétiseurs. Et c'est vrai que voilà, le fait de recréer des choses en direct, ça rajoute en plus à une dimension visuelle. C'est aussi ça. Et surtout, oui, moi ça me permet de me surprendre en jouant, et ça me permet tout simplement de créer quelque chose qui va être différent de à chaque fois que je le refais, et les gens qui ont vu plusieurs de mes concerts peuvent attester. Il y a, si tu veux, il y a un fil conducteur qui est quand même le même, mais je me laisse beaucoup beaucoup de liberté en fait, parce que je crois que c'est vraiment ça l'intérêt de quelqu'un qui va se déplacer pour voir un concert. Il veut voir quelque chose d'unique, et donc c'est vraiment ça que j'essaie de faire.
Voilà. Donc il y a une différence entre ce que tu enregistres et qu'on peut entendre sur un CD ou un support physique ou non physique d'ailleurs, et ce qu'on va voir et entendre dans un concert.
Ouais, disons que c'est à peu près c'est la même palette sonore, parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes instruments. J'essaie de me restreindre quand même dans ce champ-là. Mais sinon, oui, en album, ce sera plus travaillé et millimétré, et en live, ce sera beaucoup plus imprévisible. Voilà.
D'accord. Eh bien, on va laisser la parole à Flore, puisque du coup, on va travailler sur le plutôt prévisible, puisque tu vas nous parler, Flore, dans ta chronique, des films qu'on rediffuse pendant l'été, parce que l'été, on aime bien rediffuser plein de trucs que les gens adorent, des grands classiques du cinéma français ou d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous...
Exactement. D'abord, il y a une raison très simple à ça, c'est que les cinémas, pendant l'été, ne savent plus comment remplir leur grille, vu que la grande période des rentes du cinéma, c'est la rentrée, comme en littérature. Et du coup, les cinémas se disent tiens, et si on replaçait des vieux films? D'ailleurs, pendant l'été, les conseils sériphiles, cinématographiques, littéraires se succèdent et on sait presque plus où donner de la tête. Et maintenant, être sur la plage rime avec se mettre à la page, haha. Et du coup, il y a un peu une tendance.
Super genou.
Le genou est super efficace.
On voit que t'as bien préparé ta chronique.
J'ai un bon public, heureusement. Et donc, pourtant, il y a quand même une autre tendance qui commence à se dessiner. C'est un peu les rééditions, on se remet un peu à des vieux classiques. Et donc, outre les programmations habituelles des différents cinémas du quartier latin qui diffusent un peu ces vieux films toute l'année, il y a une véritable pépinière de chefs-d'œuvre qu'on trouve un peu partout dans la capitale, avec d'une part le cinéma en plein air et d'autre part certains films qui sont réédités, remasterisés, donc remis en numérique. Il y a beaucoup de films qu'on ne peut pas avoir du tout parce que maintenant toutes les salles de Paris sont équipées en numérique, et quand un film n'est pas numérisé, on ne peut tout simplement pas le voir. Alors côté plein air, il y a un peu le choix entre plusieurs programmations. La plus connue, c'est celle de la Villette, avec tous les samedis et jusqu'au mois d'août. On pourra voir notamment un des premiers films de Thomas Caillet, qui avait fait Les Combattants, et on peut voir aussi le film sénégalais Déwéti, et pour une programmation un peu plus joyeuse et plus mainstream, à la Villette il y aura donc plusieurs comédies dont on connaît la chanson.
C'est un bon
petit
roman.
Son. Il est là.
C'est une belle histoire.
On l'entend.
C'est une romance d'aujourd'hui.
C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui.
Voilà, donc on connaît la chanson, film d'Alain Resnais, qui en permanence, les personnages se mettent à tirer la chansonnette sur du Johnny Hallyday ou du France Gall. Ça peut être très divertissant. Et on trouve aussi d'autres comédies comme Prête-moi ta main avec Audrey Tautou et Alain Chabat. Donc c'est plus une programmation, disons, détente, et on a envie de se relaxer dans la pelouse.
Et peut-être que pour une fois, on pourra regarder les films jusqu'au bout, parce que à chaque fois que je vais à la Villette, il pleut avant la fin du film. C'est tout à fait frustrant.
Exactement. Et bah, il faut aller à la programmation Forum des Images, où on est souvent, la plupart du temps, place Montorgueil. Parfois, c'est dans d'autres petits squares ou dans d'autres petits parcs. Voilà. Donc, c'est des films peut-être un peu moins bien, mais il fait plus beau, je pense.
C'est à
l'extérieur, mais je pense que c'est fait pour les bons films, il commence à pleuvoir. Pour les films plus détentes, la météo est plus souriante.
Donc, c'est fait plus beau au Halles qu'à la Villette, écoute, finalement.
C'est ça, exactement. Alors, si vous êtes moins adepte du cinéma en plein air et que vous avez plutôt envie de vous réfugier dans la salle de cinéma climatisée pour échapper à la canicule et aussi pour être moins étouffé par la foule, parce qu'il y a trop de monde au cinéma en plein air.
Et piqué par les fourmis.
Exactement. Et bien, il y a aussi beaucoup de rééditions, et ça fait plusieurs années maintenant que le CNC met en place un système de remasterisation, donc de plusieurs films pendant l'été. Et donc cette année, il y a à peu près un nouveau film remasterisé par semaine. Il y a notamment Le Prince de Hombourg de Marco Bellocchio. Donc c'est un cinéaste italien et c'est un film adapté d'une pièce de Kleist sur la vie de Frédéric II de Prusse, donc c'est un peu une sorte de grande fresque, etc. Et il y a aussi Le Troisième Homme.
Is Mr. Martin engaged on a new book?
Yes, it's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man.
Voilà, donc Le Troisième Homme, un film de Carol Reed avec Orson Welles, un côté très expressionniste à l'américain, vraiment un film formidable, je vous le conseille. Et toujours dans cette lignée des rééditions, on trouvera en août La Vie passionnée de Vincent Van Gogh avec Kirk Douglas en Vincent Van Gogh, Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, enfin bon, de quoi refaire sa culture cinématographique en trois coups de cuillère à peau, histoire d'être incollable au Trial Poursuite à la rentrée. Et en vrac aussi, en deçà un peu de toutes ces rééditions spéciales, pendant toute la fin du mois de juillet et au mois d'août, il y a la fin du festival, le nouveau festival au Centre Pompidou, qui est dédié aux Jeux, donc il y a beaucoup de comédies en tout genre qui sont programmées. C'est jusqu'au 23 juillet, donc il reste assez peu de temps. Et il y a aussi le cycle Jeune Fille au Forum des Images, et toujours Orson Welles à la Cinémathèque Française.
Bien, merci beaucoup Flore. Alors ça vous a inspiré un petit peu? Ça vous a donné envie d'aller au cinéma? Pas du tout, un peu?
Oui, moi le festival de la Villette, j'habite pas loin, donc c'est clair que c'est un petit peu indispensable pour moi d'y aller. Ouais.
Le passage obligé de l'été.
C'est ça, exactement.
On continue un petit peu sur la soirée, donc il y aura lieu le 30 juillet, puisqu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi la musique, n'est-ce pas? Et les cafés, de l'Anticafé. Le 30 juillet à 19h30 à l'Anticafé du Louvre, celui-ci. Et dans lequel on reçoit donc plusieurs artistes, on a entendu le Tarsier tout à l'heure, et puis on a aussi Enzyme autour de cette table, qui s'est autoprogrammé pour la soirée.
C'est ça, après deux éditions, je me suis invité tout seul, mais je suis vraiment content que ce soit avec Axel et avec le troisième musicien dont on parlera un peu plus tard.
On va donc écouter un de tes morceaux Enzyme qui s'appelle Selenium. Est-ce que on l'écoute d'abord, on en parle ensuite?
Écoutons-le.
Ok. Millennium dans Zim. Il est 19h39. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et encore une fois, on a toujours de la chance puisque Enzyme est avec nous ce soir aussi. Bravo. Pardon.
Merci.
C'était très silencieux. Tout le monde écoutait avec beaucoup d'attention dans le studio. On n'a pas fait de commentaires sur avec quel instrument tu as joué. Est-ce que tu peux nous raconter alors du coup ?
Là, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Ça, c'est assez bien illustré ici. C'est un morceau. Il y a beaucoup de piano, mais il y a à la fois des prises finalement assez brutes, et puis en arrière-fond beaucoup de nappes qui sont faites de micro-fragments du même enregistrement qu'on entend au premier plan, qui font des nappes, qui font des petits motifs rythmiques. Il y a quelques sons qui sont très saturés, qui viennent un peu créer la perturbation. Et en même temps, il y a des sons radicalement électroniques, des sons de cartes son qui bug, des choses comme ça qui font une partie des rythmiques en même temps que les gouttes d'eau. Donc il y a un peu une idée de confronter les textures et les sources sonores, et le tout, je pense, sur une structure et une harmonie assez simple, un peu naïf, qui fait que ça peut fonctionner, ça peut bien fonctionner comme une musique papier peint, je pense.
D'accord. Comme pour le Tarsier, il y a un peu, on dirait que vous construisez des trucs, enfin vous testez, là on est comme un jeu d'enfant, on se dit ah, tiens, je vais essayer, je vais enregistrer, on verra bien comment ça fonctionne, les cartes son qui bug, hop, c'est rigolo, je vais regarder, et donc du coup on a l'impression que voilà, vous assemblez des choses qui a priori n'ont rien à faire ensemble, ou qui n'ont pas l'air, on se dit pas ouais, enregistrer une carte son qui bug, ça va être joli à écouter, on se dit plutôt que ça va être compliqué à écouter, et finalement dans la construction ça crée comme une harmonie qui fonctionne bien.
C'est parce que oui, en effet, il y a même s'il y a des sons de carte son qui bug qui rencontrent des sons aquatiques, il y a quand même une structure rythmique et une harmonie qui sont assez simples, qu'on retrouve dans beaucoup de musique pop, de musique de film ou de musique d'ambiance, qui, je pense, qui aide à les faire écouter, en fait, à les rendre intéressantes et pas seulement étranges ou déplaisantes.
Tu voulais réagir, Axel ?
Oui, non, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce morceau, parce qu'effectivement c'est beaucoup de sources sonores très différentes et qui sont organisées. C'est ce qui fait qu'il y a un discours musical cohérent, qui fait que c'est chouette à entendre. Ouais.
C'est effectivement chouette à entendre, comme la douce voix d'Elsa qui doit être au téléphone. Elsa, tu es là, tu nous entends ?
Je suis là, je vous entends très bien.
Alors pendant que nous on suit dans le studio de Radio Campus Paris, toi tu es à la plage d'Arcachon.
Tout à fait, je suis sur la plage en maillot de bain, il fait très beau et c'est très bien parce que mes amis étaient partis pendant que je vous attendais, étaient partis acheter des bières et arrivés avec des bières. Donc je suis sur la plage et je vais bientôt voilà, et il y a des rillettes aussi. On vient de me montrer les rillettes, c'est formidable.
De la bière, des rillettes, la vie quoi, du soleil et de la plage, d'accord.
Ouais.
On aime bien, en fait, oui, parce que j'ai pas prévenu mes invités, mais faire un peu le tour de ce que font nos bénévoles pendant leurs vacances. Donc on va un peu voir comment ça se passe. Elsa qui était dans la Creuse la semaine dernière, c'est bien ça ?
C'est ça, ouais, j'étais dans la Creuse, je sais même plus quand, je suis arrivée à Bordeaux hier, c'est ça. Je suis restée 5 jours dans la Creuse au milieu des champs avec plein d'amis dans une maison perdue au milieu de nulle part, et c'est formidable, on a fait plein de choses.
Qu'est-ce qui va se passer
pour... Du tir
à la carabine, d'accord. Génial. Les 14 juillet, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour toi ces prochains jours, Elsa ? Tu vas continuer à bronzer, parfaire ton bronzage tout en mangeant des rillettes sur la plage ?
Je vais essayer, en fait c'était la mission de la journée, d'essayer de faire bronzer mes jambes, mais c'est un peu compliqué. Les prochains jours, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. On va être un peu à Bordeaux, on va revenir à la plage, on va faire du vélo, me dit-on. On va peut-être aller au Cap Ferret, enfin je sais pas, ça va être des jours Bordeaux-plage.
D'accord, voilà. Mais est-ce que tu seras de retour le 30 juillet pour écouter le concert à l'Anticafé dont on est en train de parler ?
Le 30 juillet, ouais, je serai à Paris, ouais.
Et donc tu seras à l'Anticafé au Louvre.
Je serai là, tout à fait.
c'est 10 rue de Richelieu à deux pas de la Comédie Française. Viens.
C'est important que tu notes bien, Elsa. On t'attend. On vérifiera ton bronzage. On espère qu'il sera bien. Puis Flore demande que tu lui en ramènes une petite fiole de sable pour qu'elle fasse semblant d'être à la plage en mangeant des rillettes et en buvant de la bière.
Ça marche.
Bah super.
Je vais trouver un récipient et je vais faire ça.
Et des châteaux. Okay. Hein. Envoie-nous une photo du château de sable et tout ça.
Ouais.
Bon, amuse-toi bien, Elsa. Profite bien de la plage.
Merci.
Et puis on se voit le 30 juillet à l'Anticafé, alors.
Ouais.
Bonne soirée. Bisous, Elsa. Voilà, c'était donc Elsa. C'était fantastique, n'est-ce pas? Elle nous a un peu donné envie avec tout ça. Donc on va revenir, on a quelques minutes encore pour parler de cette soirée le 30 juillet. On aura un autre musicien à écouter tout à l'heure, dont tu nous diras le nom, Onzim, parce que c'est trop compliqué, pardon, Louis, parce que c'est très compliqué à prononcer. Simplement, quelques détails pratiques, hein, on va les répéter pour retrouver l'anti-café, les horaires de la soirée, les tarifs, toutes ces choses-là. Filippo.
Voilà, alors c'est à l'anti-café Louvre, qui se trouve dans la rue de Richelieu, au 10, juste derrière la Comédie Française. En fait, c'est vraiment à deux pas du métro Palais Royal ou métro Pyramide. Et ça commence à 19h30. La tarif habituelle de l'anti-café, c'est 4€ de l'heure, mais avec buffet, boissons chaudes, froides, tout inclus et à volonté.
D'accord, donc pas de bière, pas de rillettes, si peut-être des rillettes.
Des rillettes
Des rillettes, c'est ces trucs gras là, qui se tartinent sur du pain à base de cochon, qui ressemble à un truc un peu bizarre qui vient du Mans.
Non, on essayera.
Oh, ça serait chouette, on aimerait bien avoir des rillettes. Nos musiciens, Axel Rigaud et Louis-Pierre Lacouture, où est-ce qu'on peut vous retrouver à part le 30 juillet? Est-ce qu'on peut vous écouter? Vous avez des Bandcamp, des SoundCloud, tous ces trucs-là?
Ouais, on a tout l'arsenal 2.0 derrière nous pour diffuser notre musique. Moi, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur letarsier.com parce qu'il y a des liens vers Facebook, SoundCloud depuis ça. Donc, c'est letarsier, letarsier.com. Et voilà, et de là, on peut naviguer, tomber sur de la musique, des vidéos, plein de choses.
Il y a des vidéos aussi, tu fais un peu de vidéos.
Ouais, enfin, c'est des captations de concerts, quoi.
D'accord. Voilà. Très bien. Et toi, Enzyme?
Et moi, c'est à peu près le même topo. C'est Enzyme, donc sans E, E-N-Z-Y-M, Sound, comme Sound, S-O-U-N-D, enzymesound.com. Et comme Axel, je m'agite aussi sur Twitter et SoundCloud.
D'accord.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en contact, c'est via Twitter. Parce que...
Ah, vous êtes rencontrés sur Twitter.
Ouais.
C'est beau.
C'est beau. Hein.
Comme quoi Twitter crée des rencontres, ça paraît assez improbable. Tinder marche mieux en général, mais comme quoi Twitter fonctionne aussi. Et il y a un troisième artiste qui sera présent donc, le jeudi 30 juillet, c'est bien un jeudi, oui, qui s'appelle donc Hybrid Leatherland, c'est bien ça?
C'est ça. C'est un artiste japonais. Son vrai nom est peut-être un peu plus simple, il s'appelle Hidetoshi Koizumi.
Ah oui, c'est beaucoup plus simple.
Et donc il est pas là parce qu'il est au Japon, mais il sera là le 30. Et lui, il fait une musique, je pense, encore plus papier peint qu'Axel et moi. Il y a un disque, le dernier, qui est un peu plus accidenté, expérimental. Donc je suis assez curieux de voir de quel côté ça va tirer ce qui va proposer le 30.
Alors on va écouter un morceau qui s'appelle Evanescent Footprint. Est-ce que c'est un morceau qui est tiré de son dernier album? Pas du tout.
Non, c'est un album plus ancien, mais je ne saurais pas dire lequel.
On lui demandera si jamais un jour on arrive à le voir. Ou puis alors vous pouvez venir le 30 juillet à l'Anticafé pour lui demander directement quel est l'album dont est tiré ce morceau Evanescent Footprint qu'on va écouter tout de suite. Thank you. Renaissance Footprint avec de Hybrid Leatherland. Il est 19h53, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Et Guillaume nous propose un retour sur l'actualité, tout ce qu'on a manqué ce week-end parce qu'on était en train de rien branler devant la télé ou devant le feu d'artifice ou n'importe où d'ailleurs. Guillaume, c'est à toi.
Tout à fait, un retour exhaustif et absolument objectif sur l'actualité de ce week-end. Chers camarades, je tenais pour commencer à vous faire part d'une bonne nouvelle puisque nous comptons depuis hier une nouvelle auditrice. J'ai consacré une grande partie de ma nuit à me donner corps et âme pour la persuader d'écouter notre émission. Salut Tata Roselyne. Alors, j'ai fait le décompte et du coup nous en sommes actuellement à 28 personnes qui nous écoutent via la RNT, hein, la radio numérique terrestre. Alors 28, ça peut paraître pas grand chose, mais c'est énorme si vous songez que dans l'Union Européenne, il faut l'unanimité de 28 pays pour prendre des décisions qui engagent l'avenir d'une structure politique de première importance, puisque l'Europe a enfanté du programme de subvention publique au secteur de l'alcool low cost le plus conséquent de l'histoire européenne. Je veux bien sûr parler des 546 millions d'euros du programme Erasmus. Alors il paraît qu'il s'est passé des trucs ces derniers jours et qu'il s'en passe encore aujourd'hui en Grèce. Apparemment, on aurait demandé au Parlement grec de voter pour donner son avis sur les mesures décidées au niveau européen ce week-end. Moi, je vous jure, ces histoires de démocratie, ça me gonfle un peu. Je me rappelle, en quatrième, on avait dû faire un deuxième tour des élections des délégués. On devait choisir qui de Brendan ou de Tiffany serait le suppléant d'Elisabeth. Et du coup, on n'avait pas eu de pause de 10 heures. Non, mais c'était trop nul, quoi. Enfin, je veux dire, on a des droits, le droit à la pause, c'est marqué dans la Constitution. Pays de fachos. Bon, sinon, vous avez pas vu la bonne nouvelle, hein ? Notre président a sauvé l'Europe ce week-end, grâce à l'action de Synthesman. L'homme de la synthèse. La chancelière allemande a accepté d'utiliser du lubrifiant à la place des graviers pour faciliter l'administration d'une coloscopie obligatoire à tout citoyen grec. Alors, les partenaires européens des Grecs vont peut-être investir entre 80 et 85 milliards d'euros pour un plan qui va finalement sauver la Grèce. Ce plan-là, il est différent des autres, c'est sûr que ça va marcher. Il y a un chauve qui l'a dit sur BFM. Les chauves, ils s'y connaissent en chiffres, hein. Regardez Vincent Lagaffe. Alors, on va augmenter les impôts, privatiser des trucs publics, on va baisser les retraites des vieux Grecs qui se gavent d'ouzo et de feta sur des plages paradisiaques. Ouais, ils ont du temps disponible, hein, avec 25% de chômage. Puis il y a de la place sur la plage, hein, depuis que le taux de suicide des Grecs a été multiplié par 7 en 6 ans. Bah ouais, les gars, fallait faire ses devoirs à l'école, ou alors émigrer en Bavière pour servir des bières à 5 euros de l'heure, à des types en costume tyrolien. Enfin bon, je me suis quand même détendu aujourd'hui, hein. J'ai vu le Premier ministre dans les journaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Manuel. Je l'ai vraiment trouvé super cute à l'Assemblée, avec sa petite coupe de cheveux. Très martial, très autoritaire. Ah, Manu. Il a loué le courage du Premier ministre grec qui avait accepté de subir une coloscopie. Et il a répété que voter contre le plan de coloscopie, c'était être pour le fatalisme, l'égoïsme, le chacun pour soi. C'est vrai, hein, comme on dit, les bons comptes font les bons amis, l'argent, la base de l'amitié. En Europe, on est tous copains, hein, mais sans une bonne comptabilité. Comment est-ce que vous voulez être vraiment copains ? Donc, puis on aime bien, hein, quand on est entre amis, on se met à 27 contre le dernier petit nouveau qui vient d'arriver. C'est tellement drôle de voir une tête de Turc, enfin, pardon, non, ils sont pas dans l'Union, une tête de Grec se faire raquer. Alors, j'ai vu qu'il y avait des critiques, hein, venant de gens foncièrement hostiles à notre bonhomme de président. Des économistes diraient que le plan de sauvetage de la Grèce serait délirant, irréaliste. Ce sont probablement des ringards avec des vestes en tweed et des lunettes et une barbe qui disent ça. Ne les écoutez pas. Il y a aussi un autre garçon, très mignon, qui ressemble beaucoup à mon conseiller à la BNP, Emmanuel Macron. Je crois qu'il a osé insinuer qu'il faudrait peut-être bientôt renégocier un nouvel accord. Hein, comme si on allait changer une équipe qui perd. Et puis le plan est de gauche, hein, parce qu'il prévoit des mesures humanitaires pour aider le Bangladesh, enfin la Grèce, tu vois, c'est sympa, c'est comme si t'avais un gars en fait, il te propose de signer un papier pour brûler ta maison, et en échange il t'offre une tente quechua. Spéciale dédicace, hein, à mon pote le ministre des Finances allemand, hein, qui est une sorte de mélange entre Voldemort et François Cluzet dans Intouchable. Donc merci encore à François Hollande et Alexis Tsipras d'avoir suivi les conseils d'Angela Merkel pour rester de gauche, parce que si habiter dans une tente quechua, crever la dalle et boire de la 8 si chaude, si ça c'est pas Radio Camping, si ça c'est pas de gauche, alors je veux bien couper mes jambes et les donner à Wolfgang Schäuble. C'est beau la solidarité européenne.
C'est beau. Merci beaucoup et on va faire de preuves de solidarité, on va faire une fiction radiophonique tous ensemble, celle de Maxime, mais d'abord on va dire au revoir, hein, parce qu'on va être un peu en retard. On va dire au revoir, merci à nos invités, Louis-Pierre Lacouture, Filippo, Pedra Zoli et Axel Rigaud d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci, on vous retrouve donc le 30 juillet à l'Anticafé du Louvre. On met toutes les infos sur le www.radiocampusparis.org. Et on finit cette émission avec notre fiction. Nous avons deux minutes. C'est parti.
Précédemment, dans 1939, deux pirates de l'air ont tenté d'attaquer l'avion avant de se rendre compte que ce n'était pas le bon avion. C'est alors que d'étranges passagers font irruption dans le cockpit.
Vol 1939 à tour de contrôle. Nous décollons dès que le pilote sera revenu.
Monsieur le copilote ?
Quoi ?
J'ai des passagers qui n'ont pas payé leur billet, mais ils refusent de sortir de l'appareil.
Je vous répète que nous ne sommes pas des passagers ordinaires.
Nous ne sommes pas des passagers ordinaires.
Mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie ?
Nous venons d'une planète lointaine.
Très très lointaine.
Mais mon Dieu, ce sont des extraterrestres !
Mais arrêtez de dire n'importe quoi !
J'ai l'impression que vous ne nous prenez pas au sérieux.
Nous sentons de l'hostilité.
Bon, maintenant vous allez sortir immédiatement de cet avion, nous sommes en retard.
Nous allons vous prouver que nous ne sommes de vrais extraterrestres.
De vrais extraterrestres.
Zorglub, venez ici. Zorglub, Zorglub, oh Michel!
Oui, oui, j'arrive.
Zorglub a le pouvoir de lire dans les pensées.
Il lit dans les pensées.
Mais c'est extraordinaire!
Extraordinaire.
Non, vous répétez ce que je dis parce qu'elle dit. Zorglub, que pense cette hôtesse?
Pense cette hôtesse.
Bon, taisez-vous, bande d'abrutis.
Bande d'abrutis.
La ferme.
La ferme.
Elle pense qu'elle est impressionnée parce que nous sommes des extraterrestres.
Oui, c'est ça, c'est prodigieux.
Oh!
Mais n'importe quoi, évidemment qu'elle est impressionnée. Vous voyez bien qu'elle a le QI d'une pantoufle.
Le quoi d'une pantoufle?
Bon, ça suffit, sortez de là.
Nous devons retourner dans notre planète. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors.
Mais arrêtez vos conneries. Si vous êtes vraiment des extraterrestres, pourquoi est-ce que vous avez pas un vaisseau spatial?
Ils me l'ont dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le contrôle technique.
Bon, vous la ferme, hein, et faites sortir cette bande de tarés.
Nous sommes contrariés.
Très très contrariés.
Messieurs, pulvérisez cet homme.
Mais arrêtez, tas de cons, vous êtes en train de me mouiller avec vos pistolets à eau de merde. Allez, tout le monde dehors.
Les extraterrestres étaient-ils réels? L'avion va-t-il finir par décoller? Les pantoufles ont-elles un QI? Vous le saurez dans le prochain épisode de Vol 939.
Et Radio Camping Paris, c'est terminé pour le moment. Et vous nous retrouverez demain soir. Et puis tout de suite, c'est la souterraine. On devait donner la parole à Laurent, mais bon, il n'est pas là. Donc de toute façon, c'est trop tard. Il nous reste 4 secondes. Et bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Bisous.